Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, le podcast de la Rébellion. Je m'appelle Benjamin Ingen et je suis heureux de vous accueillir les amis pour un nouvel épisode. Et bien sûr, je suis accompagné, sans quoi ce podcast n'existerait pas, de mon cher cousin Maxime. Salut Maxime.
Salut, bonjour à tous.
Alors au moment où on enregistre cet épisode, on est bien sûr toujours confinés, séparés, à distance. Actuellement, il neige chez moi à Bruxelles, là par la fenêtre, c'est vraiment magnifique. Ça me donne envie d'écouter des chansons de Noël. Je ne sais pas quelle météo il fait à Lille, Maxime ?
Non, nous il fait beau et c'est vraiment un temps de Pâques plus que de Noël.
Ah, il fait genre qu'il habite dans le sud de la France, mais il habite bien dans le nord à Lille. Bah, super, alors profite bien en tout cas. Alors Maxime, aujourd'hui on va parler d'un sujet, j'ai essayé de mettre beaucoup d'entrain dans cette introduction, parce que si vous écoutez ce sujet-là, c'est peut-être que vous êtes dans une période un peu difficile et donc on veut être là pour vous soutenir. Là on va parler des moments de sécheresse spirituelle, c'est un sujet assez sérieux et qui nous concerne tous, hein. On ne veut pas le prendre à la légère, je dis ça un peu avec humour parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, que l'on vit tous, et donc on veut parler un peu de ce sujet-là, de comment réagir quand on passe par un moment de découragement. Alors ce qu'on entend par là et ce qu'on veut aborder dans cet épisode, c'est pas des moments de dépression au sens strict du terme, où là on voudrait faire appel à d'autres et même une aide professionnelle, on dirait dans certains cas, ou alors ni même des moments d'épreuves externes où il y a des drames qui se passent dans notre vie et qui entraînent des moments de découragement. C'est pas de ça dont on va parler ici, mais ce qu'on aimerait parler dans cet épisode, c'est un peu la dépression, on pourrait dire, régulière, les petits moments de découragement que chaque chrétien a dans sa vie chrétienne. Les petits moments de baisse au niveau du moral, dans l'âme, de remise en question de certaines vérités bibliques, de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa bonté envers nous, du fait qu'on est enfant de Dieu. Comment réagir dans ces moments-là ? Alors peut-être une première question pour toi, Maxime, qu'on peut discuter. Est-ce que c'est normal d'avoir des moments comme ça, ou est-ce qu'on devrait se dire « Ah, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche ». Comment réagir le premier instinct quand on passe par ça ? Se dire « C'est normal, c'est pas normal, un peu des deux ». Tu peux nous aider par rapport à ça ?
Ouais, je pense un peu des deux. C'est pas parce que c'est normal qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Mais pour le côté « c'est normal », je pense qu'il y a plusieurs raisons qui nous laissent penser que c'est normal, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien, c'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Et premièrement, il y a le fait que d'autres chrétiens connaissent ça, l'expérience d'autres croyants, pas uniquement les deux personnes qui vous parlent en ce moment, mais c'est fréquent dans les églises, questionner un peu les gens, tout le monde a connu le découragement. C'est commun aux êtres humains, en fait, pas uniquement aux chrétiens, ça fait partie de la vie d'avoir des phases plus ou moins joyeuses dans sa vie et plus ou moins tristes. Mais pour le chrétien, je pense qu'on a des données bibliques et doctrinales en plus qui nous amènent à penser que, en fait, les chrétiens vont connaître ça dans leur vie et ils peuvent s'y attendre. La première chose, c'est que même si on est déjà sauvé, on n'est pas encore glorifié, on n'est pas encore parvenu à un état de perfection, on ne voit pas encore Dieu, on n'est pas dans le ciel, on n'a pas encore des corps parfaits. Et toutes ces choses-là font que oui, on lutte encore avec le péché, on lutte encore avec la maladie, avec tout un tas de choses qui sont des effets de la chute aussi et de ce monde déchu, qui ne peuvent pas ne pas nous impacter, ne pas avoir de l'effet sur notre humeur. Mmh. Et en fait, plus concrètement encore, on voit dans la Bible des personnes qui ont connu le découragement. Je pense à l'exemple extrême de Élie, qui a supplié Dieu de le faire mourir. Alors là, on serait presque dans la dépression, mais on voit les psaumes qui... à plein de reprises, implore Dieu de pourquoi tu permets ça, pourquoi ceci, pourquoi tu me fais passer par là.
Mon âme est abattue en moi, ou des...
Exactement.
Voilà, des mots comme ça.
Il y a plein de chants de détresse dans les psaumes et d'invocations à Dieu où on l'implore de nous expliquer ce qui se passe. Ouais. Et donc on voit que non seulement notre expérience autour de nous montre ça, mais l'expérience des croyants dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, confirme cela. Mmh. Alors ça veut pas dire que c'est normal, ça veut pas dire qu'on doit juste se dire bon bah il y a rien à y faire. On pense, si on fait ce podcast, qu'il y a des causes et des remèdes, parfois pas toujours faciles à identifier, mais néanmoins on pense qu'on peut trouver de l'aide dans ces moments. Et Benjamin, justement, j'aimerais savoir, sur la base de ton expérience et de la Bible, est-ce que tu vois des choses qui peuvent aider nos amis qui traverseraient une expérience de sécheresse, de découragement en ce moment?
Ouais, alors peut-être je réagis juste d'abord sur ce que toi t'as mis en avant, et après on peut aborder cette question, mais pour aller dans le même sens que ce que tu dis, je pense que ça nous aide à voir que, et je pense que c'est un des moyens, une des solutions hein, par rapport à ça, de réaliser que c'est complexe comme situation. En fait, c'est aussi complexe que l'être humain est complexe, et donc c'est pas une raison unique et principale qui nous met dans cette situation-là, mais c'est un peu un ensemble de choses, et du coup, comme tu le mets en avant, certaines choses qui sont normales, d'autres choses qui seraient moins normales, et donc à la fois un découragement parce que c'est le lot de la vie chrétienne, les hauts et les bas de la vie, le caractère qui rentre en jeu des personnes, des facteurs externes comme le confinement qui peut jouer par exemple, la solitude ou d'autres données comme ça, mais aussi, et c'est ça ce serait l'aspect moins normal, notre propre péché qui entre en compte. Et forcément quand on pêche on ne se sent pas bien et on ne se sent pas bien face à Dieu et on a l'impression que le ciel est un peu fermé et on doit venir à lui dans la repentance au pied de la croix et donc c'est souvent un mélange de choses, un cocktail de choses un peu chaotique qui nous met dans cette situation là et qui donne cette situation là et ce qui n'est pas évident et ce qu'il faut faire c'est un peu de faire la part des choses et de se repentir là où on a besoin de se repentir, de s'attacher à des vérités là où on a besoin de le faire et de mettre tout ça ensemble. Je pense que ça aide un peu à démêler le nœud du problème. Ouais. Maintenant peut-être pour aller dans le sens de ta question et juste un premier élément à mettre en avant et ensuite je te laisse réagir. Justement le fait qu'il y ait ce facteur complexe, il y a le danger de un peu se replier sur soi-même et de se dire voilà, je passe par un moment de découragement, je me replie sur moi-même, ma vie est nulle, rien ne va, les gens ne m'aiment pas, je suis seul, on voit toutes les raisons qu'il y a de se plaindre et de ne pas être reconnaissant et de se décourager. Alors que si on réalise que le problème est complexe et qu'il y a plein de sources, on verra qu'il y a certaines choses, oui, dont on est victime et qu'on subit et pour lesquelles on a besoin d'aide, mais il y a aussi d'autres choses pour lesquelles on est coupable et là où on a besoin de travailler sur nous et où c'est un effort de notre part qui va nous faire sortir de cette situation. Et donc là, il y a le danger de l'apitoiement sur soi, de se replier sur soi-même et de rester replié sur soi-même et de s'enfoncer, alors que ce qu'on a besoin, c'est parfois juste d'ouvrir les yeux vers l'extérieur, de se recentrer sur Dieu, vers sa personne, de compter les bienfaits de Dieu, comme le dit ce chant bien connu, compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. On peut commencer par le salut en Christ, et ça c'est déjà assez suffisant pour nous apporter la reconnaissance. Donc ça ce serait de voir toutes ces choses-là, ça nous amène à décentrer nos regards de nous-mêmes, les recentrer vers Dieu, vers les bonnes choses, et à réaliser que ce problème est complexe, qu'il y a plein de sources qui vont ensemble, et qu'on veut un peu démêler ce nœud petit à petit en traitant un problème après l'autre, quoi.
Ouais. Je pense que pour aller encore dans ce sens, donc tu nous appelles en fait à détourner les regards de nos sentiments, de nous-mêmes, et à les tourner avant tout vers Jésus-Christ. Et je pense que c'est une des convictions qu'on partage et qu'on aimerait vous communiquer dans tous les épisodes de ce podcast, c'est que l'évangile est vraiment la solution à nos problèmes, aux problèmes que le chrétien connaît, que... L'évangile n'est pas simplement le message pour aller au ciel, mais c'est aussi le message qui nous encourage dans nos découragements. Et une vérité en lien avec ça qui m'encourage particulièrement, c'est une vérité que j'ai notée sur ma feuille, j'ai noté au nom de Jésus. Et beaucoup de gens terminent leur prière comme ça. Et en fait, c'est une formule biblique, hein. Jésus nous dit qu'on peut prier en son nom. Et se souvenir simplement que on peut revenir à Dieu... En permanence, on peut revenir à lui, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, parce qu'on vient au nom de Jésus, qui lui n'est pas coupable, n'est pas malade, n'est pas dans le découragement. Lui, il est victorieux, il a vaincu la mort, on l'a fêté récemment à Pâques, et il règne dans les cieux, il est revêtu de toute justice. Donc on peut venir en son nom, et c'est une vérité précieuse parce que parfois dans le découragement, on a l'impression que Dieu est aussi découragé de notre état et qu'il il a plus trop d'espoir pour nous. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ et c'est cette vérité avant tout qui doit nous encourager et tous les autres conseils qu'on pourrait donner doivent se plier devant ce conseil suprême.
Ouais, c'est ça. Et du coup, pour aller dans le même sens, je pense que une des clés là-dedans, bien sûr, c'est de s'attacher à ces vérités de l'évangile, mais du coup, c'est d'écouter ces vérités-là plutôt que nos sentiments. Parce que nos sentiments, ils fluctuent, ils sont hauts et ils sont bas, et ils sont parfois beaucoup plus bas que hauts. Et donc, si on écoute nos sentiments, bah, un jour, on va dire « Dieu m'aime », le lendemain, on dira « Dieu m'aime pas » et il m'a rejeté. Un jour, on va dire « Dieu m'accepte en Christ et je peux m'approcher de lui avec assurance ». L'autre jour, on dira « Ah ben non, voilà, je suis totalement découragé, j'ai pas fait ça, ma vie est nulle, ma vie est misérable, je peux pas venir à lui ». Alors que si on s'attache aux vérités de la foi chrétienne, les vérités qui ne changent pas, bah en fait, on pourra agir de manière stable et on réalisera que ces vérités-là de la foi chrétienne, de qui est Dieu pour nous, de qui est Dieu, de ce qu'il a fait pour nous en Christ, etc., c'est des vérités qui sont objectives et pas subjectives. Elles sont objectives, c'est-à-dire qu'elles sont vraies en tout temps, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances. Alors que si elles étaient subjectives, bah, elles dépendraient de nous, de nos sentiments, de ce qu'on ressent, etc. Et le grand défi, et enfin, là je parle pour moi-même, hein, dans ces moments-là, pour moi c'est de ne pas écouter mes sentiments, de ne pas écouter mon cœur et de me dire « mais oui, même si d'après mes sentiments j'ai toutes les raisons d'être découragé, j'ai toutes les raisons d'avoir le moral à zéro, mais qu'est-ce qui est vrai au final ?» Qu'est-ce qui est vrai? Et de se rattacher à des versets précieux. J'en ai un qui est accroché sur mon mur là, Romains 5:1. Ainsi donc, déclaré juste par la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est vrai, peu importe ce que je ressens. Et donc, je peux me répéter cette vérité, me la déclarer à moi-même dans un sens, enfin, déclarer entre guillemets, hein, ce mot est tellement mal connoté aujourd'hui qu'on veut mettre des guillemets, mais quand on parle de vérité biblique, il n'y a pas de souci, prise dans leur contexte, mais proclamer ces vérités à mon âme et me dire, mais ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce que fait, tu mentionnais les psaumes, ce que fait David dans le psaume 42, c'est pas David, c'est les descendants de Corée. Dans le psaume 42, ils disent pourquoi être. Enfin, ils répètent ça plusieurs fois dans ce psaume, un psaume de découragement. Enfin, pas un psaume qui est écrit pour nous décourager, mais les auteurs étaient dans le découragement, l'auteur était dans le découragement. Il dit pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et c'est frappant de voir que dans ce verset, l'auteur il parle à son âme. Il dit mais pourquoi est-ce que t'es abattu? Pourquoi est-ce que tu gémis en moi? Pourquoi est-ce que tu es découragé comme ça? Pourquoi est-ce que tu as le moral dans les chaussettes? Et il parle à son âme et lui dit « Espère en Dieu, mets ton espérance en Dieu, arrête d'être découragé, arrête d'avoir le moral à zéro, tu n'as aucune raison de le faire, je louerai encore Dieu. » Et il dit ensuite « Il est mon salut et mon Dieu. » Il s'attache à des vérités objectives qui sont vraies. Dieu est mon salut, Dieu est mon Dieu. Et ça ne change pas, même quand je suis dans ces moments de découragement, dans ces moments difficiles. Et donc, dans un sens, dans ces moments de découragement, le combat, il se fait dans les pensées, dans la tête, de dire « Mais qu'est-ce que je vais croire ? Est-ce que je vais me confier dans mes sentiments ? Ou est-ce que je vais me confier dans les vérités objectives de la parole de Dieu, dans les vérités objectives de l'Évangile ? » Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu veux rebondir, Maxime, mais moi, je trouve que ça m'aide énormément. Dans ces moments-là.
Non, en effet, je trouve que c'est un conseil précieux, celui de se répéter soi-même l'Évangile. Je pense aussi, dans le même sens, se côtoyer des personnes qui vont nous répéter l'Évangile. Bien sûr, de manière régulière et importante, les pasteurs qui vont prêcher l'Évangile les dimanches et qui vont l'appliquer à nos âmes et à nos circonstances, mais tout simplement aussi des frères et sœurs qui vont prier avec nous, pour nous, et... des amis, s'entourer de personnes qu'on sait être remplies de l'Évangile et qui sauront nous le rappeler, qui sauront nous reprendre, qui sauront nous rappeler les exigences et les promesses de Dieu au bon moment. Ouais. C'est un conseil clé quand on n'arrive plus soi-même à se rappeler l'Évangile, d'avoir des personnes qui sauront le faire à notre place.
Et c'est pour ça que l'église locale est si importante. Enfin, c'est une des raisons parmi beaucoup pour lesquelles elle est si importante, mais pour lesquelles on en a besoin. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seule, sinon dès qu'on traverse des moments comme ça, bah justement, on va se replier sur soi-même, on va être isolé, et ça va être pire en pire, et on va juste avoir un peu penser qu'on est les victimes de tous les abus dans le monde, etc. Alors que si on est intégré, impliqué, connu auprès d'une église locale de frères et sœurs, et quand on parle d'église locale, on parle d'un rassemblement de personnes, pas d'un bâtiment, quand on est connu par ces gens-là, et ben dans ces moments-là, ils vont pouvoir nous encourager. Non seulement on pourra leur dire, partager « Ah, je passe par un moment difficile, est-ce que tu peux prier pour ça ?» Ce sera un moyen de demander de l'aide, mais aussi le fait de naturellement les côtoyer. Alors c'est vrai, en dehors du confinement, c'est plus simple, mais naturellement les côtoyer, ça va nous aider dans ces moments difficiles. Il y a tellement de moments, moi, dans mon expérience, où je vois que juste le fait d'avoir passé du temps avec d'autres frères et sœurs en Christ, quand j'étais découragé, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à me décentrer mes regards de moi-même et à les porter sur des vérités qui m'ont partagé, ou sur une occasion de service ou sur d'autres choses comme ça. Et donc, c'est super précieux par rapport à là. Et peut-être, Maxime, je te demande de dire un mot sur les moyens de grâce. Je mentionne peut-être juste quelque chose avant, mais ensuite, si tu peux montrer comment les moyens de grâce peuvent nous aider là-dedans. Je pense que ce serait utile que tu partages là-dessus. Bon, peut-être en fait, fais-le d'abord et je pense que je dirais, ça irait dans le même sens que ce que tu diras.
Ça marche,
si tu as changé de théologie entre-temps.
J'allais y venir de toute façon. Ce qu'on appelle les moyens de grâce en théologie, c'est justement les manières concrètes que Dieu a établies lui-même pour nous communiquer son évangile. Et c'est des choses en fait que vous connaissez probablement très bien. Hein. On parle de la parole de Dieu, lue, prêchée, chantée, écoutée. On parle du baptême, on parle de la Sainte Cène, c'est toutes des choses soit que vous avez déjà connues dans votre vie, soit que j'espère vous les connaîtrez dans une église locale, qui sont des moyens établis par Dieu pour nous rappeler ses promesses. Hein, quand on prend la scène, il y a des promesses qui sont lues ou qui sont rappelées, en tout cas elles sont illustrées visuellement, le fait que Jésus-Christ a été livré pour nous, le fait qu'il est notre nourriture, notre pain. Et je pense que... quand on pense à ces moyens de grâce, à la parole, peut-être que vous êtes un peu déçu en écoutant ça. Vous vous dites, ouais, mais ça, je connais, ça fait des années que je lis la Bible, que je prends la scène, et ça change pas. Et on a peut-être une attitude un peu irrévérencieuse, où on s'attend à peut-être du spectaculaire, on voudrait une solution qui claque, quoi. La méthode en trois étapes qui va définitivement nous sortir du découragement, la méthode impressionnante qui va faire du bruit. Et on n'est pas les premiers à avoir ce genre de sentiment. Il y a Naaman dans Un Roi 5, ou Deux Rois 5, je ne sais plus, qui était touché de lèpre et il vient en Israël pour se faire guérir de la lèpre. Et le prophète lui dit simplement d'aller se baigner dans le Jourdain. Et il est déçu. Il pensait qu'il allait avoir des formules magiques, des impositions des mains, des choses qui sont impressionnantes. Et en fait, on lui a dit d'aller se laver. C'est un peu humiliant. Mais en fait, c'est ce que Dieu voulait de lui. Il voulait le bénir par ce moyen tout ordinaire, tout simple, qu'un bain dans le Jourdain. Et de la même façon, par la parole, par la scène, par aussi la communion fraternelle, la prière, des moyens simples que Dieu a mis à notre disposition, c'est par ces moyens qu'il veut nous rappeler son évangile. Et je vous invite simplement à ne pas être incrédule, mais à vraiment espérer que Dieu agisse par ces moyens, parce qu'il a promis de le faire. Et Dieu est fiable, quand il promet quelque chose, il le fait. Donc en fait, la clé par rapport à ces moyens de grâce, c'est d'y persévérer. Ce n'est pas d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher toujours la nouvelle technique ou la nouveauté, mais de se satisfaire des humbles moyens que Dieu a choisis pour nous travailler. C'est des moyens qui prennent du temps, mais qui font un travail en profondeur.
Exactement. Et c'est justement ça que je voulais souligner dans la même lignée que ce que tu dis, c'est que la clé là-dedans, une fois qu'on a dit tout ça, c'est juste de persévérer. Dans ces moments difficiles, de se dire, mais la vie continue, Dieu reste Dieu, l'évangile reste vrai, même si je ne le ressens pas. La Bible est le trésor dont j'ai besoin, même si je ne le ressens pas comme ça, je persévère, je continue à avancer et je fais confiance en Dieu. Et c'est ça un aspect de la foi, de continuer à faire confiance à Dieu, même quand on ne voit pas forcément la manière dont les choses pourraient se passer. De continuer à avancer et c'est en regardant en arrière après qu'on verra comment on a pu sortir de ce moment un peu plus décourageant, de cette période de sécheresse spirituelle. Mais il faut avancer, il faut persévérer de manière humble et dépendante de Dieu. Et peut-être des fois il y a aussi des facteurs un peu naturels, il faut juste prendre une bonne nuit de repos et le lendemain ça ira mieux. Il faut prendre un peu de l'air, aller faire une balade, voir la nature. C'est Spurgeon qui disait ça, j'ai pas la citation exacte en tête, mais il disait dans les moments de découragement, allez faire une balade, prenez l'air, allez entendre les oiseaux chanter. Je m'en rends compte qu'en tant que...
Ouais, vas-y. Dans le même sens, Piper, dans un podcast, dit parfois ce que le Saint-Esprit veut de vous, c'est que vous allez vous coucher.
Ouais,
et c'est vrai que parfois, quand on pense à notre caractère, au découragement, on a en vue des solutions très spirituelles, dans le sens très pieuses, mais en fait pas du tout adaptées. Parfois, on doit simplement reconnaître notre finitude, notre commune nature humaine qu'on partage avec tous les hommes. On n'est pas des surhommes, on doit juste se reposer se reposer de nos travaux pour un temps.
Exactement.
C'est une doctrine biblique. On pourrait une fois parler aussi du repos dans la Bible. Ça serait un point intéressant dans cette génération si avide de toujours faire et de productivité.
C'est vrai, c'est vrai. Et parfois, il faut juste écouter un bon épisode des Cousins Théologiens et ça vous remet le moral à 100%, j'espère. Super, Maxime, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je sais pas si toi, t'avais un mot de la fin.
Non, le podcast comme moyen de grâce, j'aime bien.
Exactement.
J'aime bien cette idée.
C'est ça. Merci beaucoup, Maxime, pour ces échanges. Ça fait du bien. Ça fait toujours, c'est toujours encourageant d'échanger avec toi. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Ouais. Bon courage dans tes études, la vie de famille, ta vie de disciple. Et puis, les amis, vous continuez à nous suivre sur La Rébellion. Tous les 10 du mois, on publie un nouvel épisode. Vous pouvez suivre Maxime sur parlafoi.fr où il continue à bloguer et avec une équipe maintenant. Et puis, moi, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Voilà, bonne journée à vous. Profite bien du soleil, Maxime.
Yes, et profite bien de la neige.
Merci. Au revoir, les amis.
Au revoir.